DW. L'arbre à palabres.
Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du magazine Sous l'arbre à palabres. 24 heures seulement après l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé, les procureurs de la Cour pénale internationale ont annoncé le mercredi 16 janvier dernier de faire appel de cet acquittement. Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé, il faut le rappeler, étaient accusés de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010 et de 2011 en Côte d'Ivoire, une crise au cours de laquelle plus de 3000 personnes auraient été tuées. Cette décision de la CPI a provoqué, on peut l'imaginer, des scènes de liesse à Abidjan et même dans le fief natal de Laurent Gbagbo, Gagnoa. Eh bien, ses partisans estiment qu'il est temps que Laurent Gbagbo puisse rentrer au pays. Mais beaucoup d'acteurs de la société civile estiment aussi que le verdict de la CPI consacre l'impunité en Côte d'Ivoire. Alors, plusieurs questions sont posées. Laurent Gbagbo est-il vraiment innocent? Quelles sont les conséquences politiques d'un probable retour en politique de Laurent Gbagbo? Va-t-il pouvoir retourner chez lui? Autant de questions qui vont peut-être avoir des réponses au cours de cette émission avec nos quatre invités. Williams Atebi, qui est vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, l'aile dite modérée conduite par l'ancien Premier ministre Pascal Lafingessan. Bonjour Monsieur William Atebi.
Bonjour.
Nous sommes également en compagnie de Monsieur Joël Nguessan, vice-président du RDR, le parti au pouvoir, vice-président chargé de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Nguessan.
Bonjour.
Également de la partie Yacouba Doumbia, président du MIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme. Bonjour.
Bonjour, M. Topona.
Enfin, nous sommes en compagnie de M. André-Julien Mbem, qui est écrivain camerounais, auteur, je le disais, de deux ouvrages sur Laurent Gbagbo. Bonjour, M. Mbem.
Bonjour, M. Topona.
Alors, vous pouvez rapidement rappeler à nos auditeurs quels sont les deux ouvrages sur Laurent Gbagbo?
Le premier a pour titre Laurent Gbagbo, l'intellectuel et le politique, publié en 2010. Et le tout récent, c'est Introduction à la pensée politique de Laurent Gbagbo.
Voilà.
Je rappelle que je suis par ailleurs aussi conseiller éditorial auprès du directeur général d'édition L'Armatan.
Merci pour la précision. À l'animation de ce débat, Eric Topona.
Rendez-vous sur WhatsApp. Pour recevoir toutes nos infos, nous envoyez vos messages audio. Inscription gratuite sur dw.com/whatsapp.
On ne peut pas souhaiter que quelqu'un reste en prison éternellement. Ce qui est déjà passé, laissons ça. On ne peut pas rester si ça seulement.
On fait la guerre ensemble. Moi, ils ont jugé une seule personne. Donc, si on l'a laissé, c'est un Ivoirien. Il peut venir chez lui. Pas de problème. Moi, j'ai pardonné.
La Côte d'Ivoire a besoin de toutes ses filles et ses fils pour se construire. Et il est même malséant de voir certains de ses fils en dehors du pays.
Je ne souhaite pas que, dans l'esprit de d'autres, qu'ils voient ça comme une victoire sur un camp. Mais on a souffert de beaucoup de choses. Il faut y mettre fin.
Vraiment, nous, les Brûlés, nous, tout ce que l'on peut dire, tout ce que Dieu fait, bon.
Voilà, vous l'aurez compris, c'était là quelques réactions des Ivoiriens saisis au vol Abidjan par notre correspondant Julien Adaï. Alors, première réaction de M. Williams Atebi, vice-président du FPI, l'aile de Pascal Lafingessan. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo?
Je pense qu'il a fallu du courage au juge de la CPI pour prendre la décision telle qu'ils l'ont prise avec l'explication qu'ils ont donnée. Cela anoblit un peu la justice pénale internationale. Cela nous réconcilie un peu avec une certaine justice. Et avec soulagement, ça fait depuis 2011 que Laurent Gbagbo est en prison. 2012, je crois, pour Charles Blé Boudé. 2011, 2019, ça fait 8 ans qu'il est en prison dans un procès dont on sait par ailleurs que c'est un procès biaisé, c'est un procès presque inutile quand on a écouté tous les témoins. Et quand finalement les avocats ont eu le nez creux, je dis ça ne sert à rien d'aller plus loin, il faut arrêter ce procès.
Et vous pensez vraiment que Laurent Gbagbo n'a rien fait?
Mais ce n'est même pas moi qui le pense. Et la justice internationale dit que le procureur a échoué, n'a pas été capable d'apporter la moindre preuve de quoi que ce soit.
Oui, je vais voir ce qu'en pense M. Joël Nguessan, vice-président du RDR. Alors, M. Nguessan, que vous inspire hein, cette décision de la CPI?
J'ai d'abord une pensée pour les 3000 victimes parce que personne ne peut me dire qu'il n'y a pas eu ces 3000 victimes. Il y a eu des morts, c'est une réalité. Personne ne peut le nier, c'est des morts des deux côtés. Maintenant, entre culpabilité et puis responsabilité, il faut se poser la question de savoir est-ce que les gens ont jugé la responsabilité ou ils ont jugé sur la culpabilité. Moi, à titre personnel, j'ai connu des personnes qui me sont proches qui sont mortes. Donc maintenant, la Cour pénale vient de prendre une décision. Je crois que les hommes politiques, nous gagnerons maintenant et peut-être de plus en plus à éviter d'avoir des émotions par rapport à des décisions politiques.
Oui, mais le camp au pouvoir également est accusé.
Permettez que je termine.
Allez-y.
Le président Alassane Ouattara a pris une décision permettant l'amnistie de plus de 800 personnes. On a pris acte. On n'a pas fait d'émotion. On n'a même pas fait d'analyse politicienne inutile. On a dit, bon, écoutez, les victimes sont là. Pardonnez. Le président, dans sa volonté de voir les Ivoiriens se réconcilier, a pris cette décision. Mais on prend acte de ça. Mmh. De la même manière, si la Cour pénale internationale, pour deux personnes, prend la décision de dire qu'ils n'ont rien fait, mais c'est eux qui ont décidé. Ce n'est pas moi, le politique, qui a décidé cela. Mmh. Mais ceci étant, on ne va pas oublier qu'il y a eu 3000 victimes de part et d'autre, et qu'au moment où il y avait ces 3000 victimes, il y avait un responsable de la Côte d'Ivoire.
Oui, vous parlez de victimes, excusez-moi, M. Nguessan.
Permettez, hein, dont la mission était d'assurer l'intégrité physique des populations ivoiriennes. Ça, au moins, c'est assez précis, c'est assez clair. Donc maintenant, quelle que soit l'issue finale qui sera donnée à la demande du procureur d'interjeter appel, j'ai dit, on doit tous prendre acte en se souvenant qu'il y a eu 3000 victimes. Donc tous les propos qui tendent à faire croire qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mort, personne n'a rien fait, mais franchement, c'est un déni très grave et puis c'est une preuve d'immoralité qui est difficilement acceptable en politique.
Oui, mais M. Joël Nguessan, beaucoup d'Ivoiriens qui sont neutres pensent que le régime actuel Ouattara devait aussi être responsable, non? Vous n'êtes pas aussi exempt.
Vous savez, en matière de crime, hein, en matière de délit, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire « Lui, là, il est responsable, donc moi aussi, je dois être responsable. » Ses responsabilités et sa culpabilité.
Mais il y a beaucoup d'exactions imputées aussi au camp Ouattara à l'époque de la crise.
Je ne suis pas juge. Le camp Ouattara n'est pas juge. Mais on a tendance à faire croire que oui, bon, puisque M. X n'a pas été aussi inculpé, donc ça veut dire que c'est une justice à deux vitesses. Ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un a commis un crime, ou bien il a une responsabilité dans la réalisation d'un crime, mais on juge cette personne. Mais on ne va pas juger les autres sous le prétexte que oui, comme lui, il a été jugé, lui, l'autre doit être jugé. Franchement, je trouve souvent ce type d'argument très puéril.
Voilà, on va donner la parole à M. Yacouba Doumbia, qui est donc le président du MIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme. Alors, M. Doumbia, on vous a interviewé mardi, hein, juste après l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, et vous nous aviez dit que c'était clairement un déni de justice.
Oui, les victimes ont considéré cette décision comme finalement un déni de justice, en ce sens que c'est tout espoir de justice finalement par rapport à la crise post-électorale qui s'envole du côté de la Cour pénale. Souvenons-nous que, M. Joël Nguessan le disait tout à l'heure, le président de la République a pris une ordonnance qui a été confirmée par une loi de ratification à l'Assemblée nationale, amnistiant en tout cas les frères post-crise. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation où les victimes qui pensaient que en fait, la Cour pénale internationale qui a pour vocation de juger les auteurs les plus hauts en train de la chaîne de commandement pour l'injustice, vient donc de leur enlever cet espoir-là. Impossibilité de faire justice au plan local, impossibilité de faire justice au plan international. Alors, quel sort les aurons-nous à ces victimes? Ils l'ont dit, c'est 3000 officiellement qui ont été dénombrés. Et donc, c'est vraiment de la désolation à ce niveau-là.
Oui, beaucoup d'Ivoiriens, notamment ceux qu'on a écoutés tout au début de ce magazine, estiment qu'il va falloir maintenant tourner la page, penser les plaies et penser à l'avenir du pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus réaliste comme ça?
Je veux dire, les crises ivoiriennes ont été successives. Rappelez-vous, depuis 99, après le coup d'État, en tout cas pour ce que nous en savons, c'est que depuis le coup d'État, la boîte de Pandore a été ouverte. Et voilà, il y a eu, à mon sens, déjà deux ou trois lois d'amnistie qui n'ont pas véritablement arrêté la chaîne. La troisième amnistie, c'était dernièrement au niveau de M. Ouattara. Donc l'amnistie ou le pardon sans justice, n'a pas pu encore arrêter la chaîne. Donc nous pensons que les mêmes causes conduisant, les mêmes effets, vous voyez aujourd'hui, il y a l'effervescence dans les divers camps, avec les violences électorales dernièrement au niveau simplement des municipales. Nous estimons que tant que nous ne brisons pas la chaîne de l'impunité, voilà, on ne fera pas une paix durable. Aujourd'hui, on peut bien se contenter du fait que bon, tous les acteurs sont d'accord que M. Laurent Gbagbo est un maillon essentiel de la réconciliation nationale. Mais pour autant, les solutions, en fait, ont été déjà utilisées par M. Gbagbo, par M. Ouattara aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas donné. Et ça n'a pas arrêté la chaîne de l'impunité. Et tant que l'impunité, en tout cas, à notre sens, n'est pas arrêtée, voilà. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri encore de ses soubresauts avec son lot de maîtrises, de victimes innombrables.
Oui, mais M. Yacouba Doumbia, Maître Emmanuel Altide, qui est l'un des principaux avocats de Laurent Gbagbo, estime plutôt qu'à travers cet acquittement, eh bien, c'est la Cour pénale internationale qui en sort grandie. Ça prouve que les juges sont indépendants puisqu'ils ont acquitté M. Laurent Gbagbo.
C'est une manière de voir la Cour pénale internationale, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire 3000 victimes, il n'y a pas d'homme d'auteur, parce que la Cour pénale, nous avions dénoncé en fait la poursuite séquencée du procureur, parce que tous les rapports, en tout cas dressés au sorti des crises, ont indexé des auteurs possibles dans les deux cas. Nous avons souhaité en son temps que en fait, l'intervention de la Cour pénale soit axée sur les deux camps. Le procureur d'alors nous a rétorqué qu'il ferait une poursuite séquencée d'abord les partisans de M. Gbagbo, et ensuite les partisans de M. Ouattara. Aujourd'hui, après 7 ans, on nous dit qu'il n'y a pas d'élément susceptible de retenir M. Gbagbo et M. Bleu-Boudé dans les lettres de la prévention. Et comment vous imaginez aujourd'hui donc que la Cour pénale puisse continuer cette poursuite séquencée alors que M. Ouattara en fait, doit collaborer pour que en fait, les mandats éventuellement émis puissent trouver application. Donc voilà, aujourd'hui nous nous trouvons dans l'impasse au plan judiciaire parce que voilà, et finalement les victimes ne seront jamais qui sont les auteurs de qui veut arriver est arrivé à leur proche.
Voilà, nous allons aussi donner la parole à M. André-Julien Bem. Le débat, on le voit, est très intéressant et passionnant. Alors, M. André-Julien Bem, vous avez connu, ou bien vous connaissez très bien l'homme, Laurent Gbagbo, l'homme politique, l'homme d'État. Vous avez d'ailleurs écrit deux ouvrages sur lui. Qu'est-ce que vous a inspiré cette annonce d'acquittement?
Écoutez, déjà, il faut considérer que pour l'Afrique, il est hors de question que les problèmes intra-africains se règle en Europe dans une institution étrangère. C'est une défaite pour l'Afrique. S'il y avait matière à juger, s'il y avait des personnes à incriminer, on aurait dû le faire sur le sol ivoirien. Que Laurent Gbagbo aille faire l'objet d'un procès à la haie, c'est une honte pour l'Afrique, c'est une défaite pour l'Afrique. Donc déjà, que nous soyons ivoiriens ou pas, on doit se dire plus jamais ça. Deuxième point, j'entends des gens qui disent « Oh, mais écoutez, il y a les victimes qui n'ont pas été réparées dans le préjudice qu'elles ont subi. » Je suis tout à fait d'accord. Mais cela dit, ce n'est pas une justice à deux vitesses qui peut rendre justice aux victimes. Et je pense que la CPI a profondément démontré qu'elle est une institution politique. Elle n'est pas un tribunal où on dit le droit. Elle est même un tribunal où on dit parfois le tordu. Par conséquent, ce qui s'est terminé hier, et qui va certainement se terminer très prochainement avec la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Bégaudé, c'est un très mauvais épilogue, c'est une très mauvaise image de l'Afrique par rapport au reste du monde. Maintenant, s'agissant de Laurent Gbagbo lui-même, moi, je l'ai toujours dit, même quand Simon a été libéré, j'ai estimé qu'ils doivent prendre désormais la caravane de la paix, la caravane de la réconciliation. Et je pense que, quand vous écoutez Henri Conan Bédié, ou même, j'ai suivi M. Nguessan tout à l'heure, tous aujourd'hui, j'aimerais que la nouvelle génération d'hommes politiques ivoiriens parvienne à construire un pays qui sera tout à fait à l'opposé du désastre et du massacre intra-ivoirien auquel nous avons assisté et
qui affecte à tout le continent. Donc vous plaidez pour que tout le monde puisse fumer le calumet de la paix.
C'est le sens de l'histoire, de toute façon. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire n'a d'avenir s'il ne prend ce chemin-là. Que ce soit ceux qui sont sur le plateau tout à l'heure, tout de suite avec nous, que ce soit d'autres, ils n'ont pas d'avenir politique. Donc, il faut parvenir à créer une dynamique pacifique qui va montrer à la jeune génération que ce qui s'est passé à partir de notre histoire. Moi, il y a une image qui m'a marqué. C'est lorsque Helmut Kohl et François Mitterrand se tiennent la main à Verdun. Vous vous souvenez très bien de la réconciliation franco-allemande. Mais écoutez, l'Allemagne a fait deux guerres avec le reste de l'Europe. Et aujourd'hui, quel est le socle de la relation franco-européenne européenne? C'est l'Allemagne et la France. C'est comme ça depuis Helmut Schmidt et Giscard, Helmut Kohl et Mitterrand, Gerhard Schröder et Chirac, Angela Merkel et Hollande, Angela Merkel et Macron. Voilà. Mmh. Et il faudrait que les hommes politiques ivoiriens, qui sont pour la plupart des septuagénaires, il faut le dire, prennent conscience de ce que l'heure est venue de laisser une autre Côte d'Ivoire à la jeune génération.
D'accord. Nous allons parler justement de l'avenir politique de Laurent Gbagbo. Beaucoup de ses supporters le verraient même rentrer en Côte d'Ivoire et pourquoi pas participer à la prochaine élection présidentielle de 2020. Or, selon nos informations, Laurent Gbagbo reste poursuivi dans le cadre d'une affaire liée au braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il a écopé même d'une condamnation de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Nous avons posé la question à l'un de ses avocats dans le cadre de cette affaire, Maître Félix Bobry, et voici ce qu'il dit. Il confirme cette information.
Oui, et il y a d'ailleurs une décision, un jugement de deux fois qui a été rendu contre lui et contre le ministre Kone Katina, parce que c'est le deux qui était absent. Donc, à la compte de ces deux, je veux dire le président Gbagbo et le ministre Kone Katina, le tribunal a rendu une décision de défaut qui les condamne à 20 ans de prison. Bon, j'ai immédiatement fait opposition, j'ai formulé une opposition contre cette décision. J'attends que le tribunal réagisse et programme de nouveau une audience.
Voilà, c'était donc Maître Félix Bobry, l'un des avocats de Laurent Gbagbo dans le cadre de cette affaire de condamnation liée au braquage de la BCAO, la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest. Alors, une réaction, Monsieur Williams Atebi, vous aimeriez bien voir votre champion, Laurent Gbagbo, retrouver sa place sur l'échiquier politique national, mais est-ce que cette condamnation n'est pas comme une sorte de caillou dans sa chaussure?
Mais non, pas du tout. Je pense que c'est de la stratégie de faire diversion. Il n'y a jamais eu de braquage de la BCAO. C'est vrai qu'il y a une décision de justice condamnant le président Gbagbo à 20 ans de prison, mais le caractère ridicule de ce genre de choses ne sert à personne. Le président Gbagbo était à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, les banques sont fermées. La BCAO, à l'époque, la France de Sarkozy, dont on sait par ailleurs quelle a été l'épine dorsale de cette révision. Contre le Côte d'Ivoire, va user des moyens qu'il avait pour empêcher que le pays évolue économiquement. Quand je continue de dire que Laurent Gbagbo, à la CPI, a été déclaré indigent. Vous savez, quand vous avez des critères objectifs, des faits tangibles, ne faites pas de la spéculation. Voilà. Il a été condamné, son avocat vient de dire qu'il a fait opposition à cette condamnation. Mais à cette opposition, il y a la loi d'amnistie qui a été prise. Or, l'amnistie concernait tous les faits en rapport avec la crise. Alors, si cette loi d'amnistie a été prise, cette condamnation ne vaut plus. Pas du tout. Elle ne vaut plus du tout. Oui, on peut faire de la spéculation inutile en racontant des faits qui n'ont jamais existé. D'accord. Je rappelle que M. Joël Nguessa était à la CPI. M. Joël Nguessa était à la CPI. Il a témoigné à la CPI. Il n'a pas pu prouver quoi que ce soit. Il était à la CPI.
Alors, M. Joël Nguessa, une réaction. Est-ce que Laurent Gbagbo peut bien revenir sur l'échiquier politique national si la CPI confirmait sa libération? Ou bien vous pensez que sa condamnation dans le cadre de l'affaire du braquage de la BCAO va l'en empêcher?
Est-ce que vous m'entendez?
Vous m'entendez, M. Nguessa?
Est-ce que vous m'entendez?
Voilà, je vous entends très bien. Vous avez compris ma question? Ah, la ligne n'est pas bonne. Bon, je vais peut-être laisser Monsieur Yacouba Doumbia réagir. Est-ce que vous pensez que si la CPI confirmait la condamnation de ou bien la libération de Monsieur Laurent Gbagbo, il pourra bien revenir en Côte d'Ivoire et peut-être être candidat en 2020 à l'élection présidentielle?
Oui, bien sûr. Si la CPI confirmait l'acquittement de Monsieur Laurent Gbagbo, je ne vois pas quel autre obstacle devrait empêcher Monsieur Gbagbo de revenir dans son pays et de jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire un acteur politique de premier rang.
Oui, mais cette condamnation dont je venais d'en parler, est-ce que vous pensez que ça ne va pas peut-être constituer une ombre dans le tableau?
Oui, justement, vous voyez bien que le même personne se reconstitue. Vous avez entendu tout à l'heure M. Atébé Villa, voilà, défendre son cas avec Vimas, voilà, M. Joël Nisla défend son cas. Et aussi, donc, on remet en fait le personne de 2010 et puis on est reparti. Et quand on parle de réconciliation, donc, il faut accepter tout, la loi d'amnistie, il faut accepter qu'on fasse table rase parce que voilà, l'impératif de réconciliation existe. Voilà, c'est pourquoi nous avons toujours eu des réserves, parce qu'en vérité, tant qu'on ne subit pas les responsabilités individuelles et tout, bon, écarter donc les personnes qui se seraient rendues coupables de faits attentatoires graves aux droits de l'homme, voilà, on ne parviendra pas en fait à une réconciliation durable.
Oui, mais le problème est que Laurent Gbagbo ne figure pas, hein, sauf à me tromper, sur la liste des personnes amnistiées, dont Simone Gbagbo. S'il n'a pas été amnistié, eh bien cette condamnation court toujours.
Moi, je veux dire l'interprétation que, voilà, il va falloir interpréter en fait la loi d'amnistie en rapport avec l'acquittement et devant la Cour pénale internationale. Mais moi, je trouve difficilement en fait pénable une situation qui dirait que M. Laurent Gbagbo devait être exclu du jeu politique parce qu'il y aurait une condamnation du fait justement de cette crise post-électorale. Donc, j'estime que. Voilà, il faut que le procureur fasse appel et que la Cour pénale rende une décision définitive. S'il y a un acquittement, tout le monde a pris les conséquences. S'il n'y a pas d'acquittement, il faut que donc la Cour pénale continue ses enquêtes et qu'elle cherche aussi, en fait, dans le cas de M. Ouattara, pour faire justice. À ce moment-là, en fait, les victimes sauront qui a fait quoi en fait, dans le malheur qui les a touchés.
D'accord. Je vais voir, est-ce que...
Je pense qu'elles ne vont pas être pardonnées.
Oui, je vais voir, est-ce que M. Joël Nguessan est de nouveau revenu. M. Nguessan, vous nous entendez? Allô, Joël Nguessan? Non, pas du tout. Ok, M. André-Julien Bem, vous pensez que si la CPI confirmait donc la libération définitive de M. Gbagbo, il est libre de revenir dans l'arène politique dans son pays? Ah, M. Mbembo également est parti. Apparemment, la ligne nous a joué un sale tour. Je vais peut-être redonner la parole à M. Williams Atebi. Allô? Voilà, vous êtes là. Ok, voilà. Et donc, au niveau du FPI, vous attendez impatiemment l'arrivée à Abidjan de M. Laurent Gbagbo?
Oui, absolument. Absolument. Tout le monde voilà, attend son arrivée. Et quand je dis tout le monde voilà, ce n'est pas une affaire de l'histoire de FPI. Non, tous les Ivoiriens estiment que c'était une grave injustice qui était fait à Laurent Gbagbo, à Sadio Mané, et même au-delà d'eux, à la Côte d'Ivoire, et tout le monde attend son arrivée. Mais je dis, c'est parce que les gens ne connaissent peut-être pas assez Laurent Gbagbo, sinon l'essentiel pour lui, c'est de rentrer au pays, et puis d'être utile à son pays. Donc, c'est lui qui donnera le contenu de son affaire politique quand il sera là, et le contenu qu'il donnera sera le contenu qui sera le plus conforme aux intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Mais qu'il a le droit de venir en Côte d'Ivoire, il a le droit de prendre la parole politique. Et pour les Ivoiriens, Laurent Gbagbo est un acteur politique majeur. Donc, naturellement, au moment où nous sommes dans cette période difficile, il est attendu comme une personne réussie qui sera utile et qui apportera des solutions. N'oublions pas que tout ce qui s'est passé depuis 2002 a été fait contre son régime. Contre son régime. Et il est donc il est plus qualifié que quiconque pour parler de pardon parce que c'est lui qui est la victime. Dans la crise ivoirienne que nous connaissons, Laurent Gbagbo fait partie des victimes, il n'est pas parmi les bourreaux. Et donc, lui, naturellement, quand il parle de pardon et de réconciliation, il est plus crédible parce que si lui il est capable de pardonner et de prendre la réconciliation, alors cela entraîne une plus grande facilité pour les autres acteurs politiques à s'aligner et à se mettre sur cette même logique-là. Et dans cette perspective, les Ivoiriens attendent effectivement qu'il rentre
et qui puisse jouer la partition qui est la sienne pour que la Côte d'Ivoire redevienne comme elle a toujours été.
Ok, voilà Joël Nguessan, tout à l'heure je parlais de l'avenir politique hein, de Laurent Gbagbo. Pensez-vous que s'il rentrait en Côte d'Ivoire un homme libre, eh bien il peut bien redevenir un homme politique fréquentable?
Mais ça dépend de lui-même. Vous savez, l'aventure politique est une aventure individuelle, elle n'est pas collective. S'il décide de faire de la politique, il va faire. S'il ne veut pas la faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le pousser, même s'il a des milliers de supporters. Donc vraiment, il est totalement libre de savoir ce qu'il va faire. En cela, franchement, nous, au niveau du RDN, on n'interfère pas quant à son avenir.
Alors, autre question, on parlait donc de l'affaire du braquage de la BCAO. Il a été condamné, Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il figure parmi les personnes amnistiées dont son épouse Simone Gbagbo?
Ce n'est pas l'homme politique que je suis de m'initier dans des procédures concernant le braquage de la BCAO. Je n'étais ni présent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fait. La BCAO a été braquée. Quels sont les auteurs, quels sont les commanditaires? Bon, il s'agit de vous dire et en son temps, la justice va se prononcer.
Oui, mais la justice l'a déjà condamné hein, il y a quelque temps à 20 ans de prison.
Je vous dis que on a le défaut de toujours interférer dans les décisions de justice. Mais s'il a été condamné, ça veut dire que les faits sont avérés. Donc, franchement, je ne vois pas en quoi on peut interférer.
D'accord. Vous écoutez le magazine Sous l'arbre à palabre. Nous nous acheminons vers la fin. Monsieur Yacouba Doumbia, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale tout de même?
Oui, absolument. Ça, c'est un impératif à mon sens. Et je pense que les acteurs politiques seront d'accord avec nous pour dire qu'il n'y aura pas de paix durable si la cause des victimes n'est pas mise au centre des débats. Le gouvernement a déjà eu une initiative qui est l'indemnisation administrative. Il y a une opacité totale autour de cette initiative, de telle sorte qu'il y a vraiment un impact en termes d'indemnisation est minime. Donc, nous pensons que nous attendons d'abord que en fait, les procédures arrivent à terme. Et en ce moment-là, nous avons analysé en fait, les possibilités sur d'autres fronts pour que la cause des victimes ne soit pas justement passée à perte profit.
Oui, mais le problème est qu'on se demande s'il n'y a pas d'auteur, s'il n'y a pas de coupable, qui devra indemniser ces victimes.
Là, on passe automatiquement à l'État. L'État de Côte d'Ivoire, quand même, existe. Les autorités n'ont pas été capables, en fait, de maintenir la paix. Donc, forcément, la responsabilité de l'État pourrait être engagée sur ce point. Ou, les groupes militaires, en tout état de cause, les États ivoiriens qui trouveront des ressorts pour que, en fait, la question des victimes ne soit pas.
D'accord. Ok, je vais voir ce qu'en pense Monsieur Williams Atebi. Vous êtes du même avis?
Absolument, indemniser les victimes est un minimum. Absolument. Mais le problème, c'est que quand on parle des victimes, on a le sentiment que pour les gens, il y a une catégorisation des victimes. C'est pas bien. C'est même pas digne. Les victimes de la crise là, c'est depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. On a créé un ministère, tout le gouvernement de Seydou Diarra a créé un ministère chargé des victimes de guerre, on n'a rien donné. Après, il y a eu M. Dakoury Tablé, un membre de la rébellion qui a été ministre chargé des victimes de guerre, ça n'a rien donné. La volonté politique même pour définir la victime de guerre est absente depuis dans cette crise-là. C'est sur ça que les victimes devaient travailler, au lieu de raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue, à parler de « on a libéré Gbagbo, les victimes, c'est plein d'impunité, c'est des victimes qui n'ont ni tête ni queue ». C'est de d'abord de poser le cadre institutionnel de la victime de guerre. C'est qui la victime de guerre? Et puis, quels sont les dommages qu'on répare? Est-ce que c'est les dommages moraux? C'est les dommages matériels? C'est le cadre concret. On aurait dû avoir une loi sur les victimes de guerre. On ne l'a pas. Vous comprenez? Donc, au lieu de faire de raconter n'importe quoi sur les chaînes de radio, moi, je suis un peu outré quand c'est un des responsables qui parle de choses comme ça. Vous comprenez? Il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté politique, qu'on définisse la victime de guerre, qu'on crée un cadre, et qu'après, il y a une forme de queue de répartition en fonction des dommages. Il y en a qui sont même plus là. Beaucoup de victimes de guerre sont mortes. Les ayants droit sont pris en compte jusqu'à quel degré? Il y a tellement de questions techniques importantes qui n'ont jamais été l'objet d'un début de réflexion que ce débat sur les victimes de guerre-là, je le trouve vraiment surréaliste. Je le trouve surréaliste. Si ça intéresse vraiment les politiques, ils vont s'asseoir, ils vont définir le cadre et puis ils vont travailler.
D'accord. Alors.
Non, attendez, je vous
plaît. Ok, allez-y.
Le président Ouattara a mis en place une commission d'enquête. C'est le président Ouattara, pendant que Babo était à la CPI. Cette commission d'enquête a établi le nombre de morts par camp. Elle a dit, voilà les morts par les FPS, ceux qu'on estimait les loyalistes, donc les pro-Babo. Voilà les morts par les rebelles. La magistrate s'appelle Mme Paulette Badiou. Elle a fait un rapport qui a rendu public que Joël Nguessan... Ah, comment il dit, pourquoi il peut dire que... Comment on a visé un groupe, comme ça on veut conjuguer un groupe. C'est des histoires, il faut arrêter ça.
D'accord. Ok, nous allons...
Le rapport existe, il a ce rapport. Donc commençons à mettre toutes les victimes ensemble.
Mm-hmm.
Commençons à dire, s'il y a eu des victimes pro-Babo, et il y a eu des victimes pro-Ouattara, j'ai dit que dans le camp pro-Babo, Babo Laurent et Blé Goudon étaient jugés. Dans l'autre camp, déjà par les jugés, ils ont reconnu qu'il y a eu des morts. C'est un minimum, vous ne comprenez pas ça.
D'accord. Bon, je vais aussi devoir laisser la parole à M. Joël Nguessan. Joël Nguessan, un mot sur la réconciliation. Est-ce qu'il faudra penser à une indemnisation de toutes les victimes pour mettre fin à toutes les rancœurs?
Non, c'est une évidence. Hein. C'est du domaine du trivial, ça, qu'on indemnise les victimes, on leur ayant droit. Ça, c'est une évidence. Mais je dis que moi, mon seul problème depuis le début de cette crise, c'est l'obligation de repentance vis-à-vis de ce qui s'est passé. Hein? Le devoir moral de dire que, en tout cas, vraiment, j'ai une part de responsabilité. Je ne l'ai pas beaucoup senti dans certains camps. Je ne l'ai pas beaucoup senti. Bon, ceci étant, ça veut dire que ce devoir de repentance, cette obligation de reconnaître que quel que soit le camp dans lequel on est, nous avons commis des erreurs dans nos propos, dans nos agissements, et que cela aboutit à la mort de 3000 personnes. Si on ne sent pas ça chez les gens, j'ai bien peur que demain matin, ces mêmes individus rééditent leur espoir macabre. Ça, c'est l'élément le plus urgent qu'il faut adresser. Ça veut dire reconnaître ses torts. Parce que réconciliation, c'est bien. On ne se réconcilie pas si on n'a pas, de part et d'autre, reconnu ce qu'on a fait qui n'est pas bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui vient de se passer, la libération de près de 800 personnes par une décision d'amnistie prise par le président Alassane Ouattara qui a abouti à une loi, avec ce que la Cour pénale internationale vient d'entreprendre à l'endroit de monsieur Babo Laurent et M. Blé Goudé, nous devons créer les conditions d'une vigilance permanente pour que les propos des uns et des autres, leurs agissements, soient surveillés de près pour que plus jamais ça.
D'accord.
Et ne vous en faites pas, les victimes s'organisent pour être des veilleurs permanents, pour éviter que certains propos vont en guerre qu'on a connus et qui ont précédé aussi bien la crise de 2002 jusqu'à la crise de 2010, que ces propos-là s'estompent. Et il faudrait créer les conditions pour que plus jamais, quelqu'un par ses propos politiques n'engage la vie des autres. On a parlé, on a dit ceci, on a enflammé les foules, les gens sont morts, et puis on est là après, je n'ai rien fait. J'ai dit ça. Nous allons veiller à cela.
D'accord. Un dernier mot, peut-être rapidement, M. Yacouba Doumbia, nous allons faire un dernier tour de table hein, pour vous, afin de conclure ce magazine. Yacouba Doumbia, un dernier mot.
Nous avons encore espoir que justice sera faite, mais justice après que en fait, les auteurs aient été reconnus. Donc, nous continuons d'accabler en fait, ces victimes-là pour que tous les auteurs présumés puissent pouvoir reprendre leurs actes. Je suis bien content d'entendre M. Joël de ne pas avoir un discours politique responsable. J'avais dit qu'ils ont pris toutes les leçons en fait, de ce qui s'est passé. Mais pour nous, en fait, une réconciliation durable doit mettre au centre en fait, la question des victimes, parce que M. Atelier aussi l'a évoqué, les victimes passent. Il a fait voter en fait, la question des victimes en 2002 On pourrait même encore aller au-delà, mais voilà, on va revenir. C'est une répétition. Il y a eu le courant de la réconciliation nationale, il y a eu les lois maritimes. Mais justement, il faut que chaque individu puisse comprendre que, voilà, si je connais un acte délictuel, je dois pouvoir répondre devant la justice. Et bon, devant la justice, on peut être reconnu coupable ou on peut être acquitté. Et ça aussi, c'est en fait le sens de la justice. Même pour nous, estimons que nous devons pouvoir répondre. Et qu'au terme du procès, voilà, qu'il offre toutes les garanties d'un procès équitable, voilà, comme à la Cour pénale internationale, voilà, les responsabilités puissent être situées.
D'accord. Monsieur William, Williams Atebi, un mot de la fin. Vous m'entendez, monsieur Atebi? Ah, il est parti. Peut-être monsieur Joël Nguessan, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà, un mot de conclusion alors.
Ben, ma conclusion, c'est que les Ivoiriens ne reconnaissent plus ce qu'on a vécu. Et qu'on mette rapidement en place des cellules de veille pour que plus jamais quelqu'un, ni de passer à propos, ni de passer d'agissement, ne crée la situation que nous avons connue. Mmh. C'est le seul mot de fin que je peux donner.
D'accord.
En tout cas, en vous remerciant de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer et dire aux Ivoiriens que notre réconciliation passe avant tout par la repentance.
Merci beaucoup, hein, monsieur Joël Nguessan, vice-président du RDR, hein, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Dramane Ouattara, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à monsieur Williams Atebi, vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, l'aile dirigée par Pascal Affi-Nguessan, l'ancien Premier ministre. Merci aussi à Yacouba Doumbia, président du MIDH, le Mouvement Ivoirien des Droits de l'Homme. Nous avons perdu vers la fin du magazine monsieur André-Julien Mbem, qui a écrit deux ouvrages sur Laurent Gbagbo. La ligne nous a fait défaut, ce n'est pas grave. Je vous remercie en tout cas, chers invités. Nous avons évoqué donc le cas de Laurent Gbagbo après l'annonce le mardi 15 janvier dernier de son acquittement par la Cour pénale internationale. Et nous avons aussi un peu parlé de l'avenir politique de Laurent Gbagbo, et il ressort de tous nos débats avec vous, les invités, qu'il va falloir mettre un terme à toutes les vieilles rancœurs, penser à l'avenir du pays en se réconciliant, en fumant le calumet de la paix. Nous allons donc peut-être en reparler, puisque l'actualité en Côte d'Ivoire est bien dense. L'élection présidentielle est prévue l'année prochaine, en 2020. Et le souhait donc de tous les Ivoiriens, c'est de voir tous les acteurs politiques, y compris Laurent Gbagbo, participer à ce processus pour tourner définitivement la page donc la crise qui a failli saper les fondements même de ce pays, moteur donc de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de l'Afrique. À l'animation de ce débat, Eric Topona. Je vous laisse en compagnie du reste des programmes donc de la DW, la radio internationale allemande, émettant depuis nos studios de Bonn. À très bientôt.